Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Bonjour les amis, comme chaque semaine, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous l'êtes aussi. Et nous continuons avec sainte Mariam Bawardi, cette petite sainte merveilleuse, fantastique que nous allons découvrir tout au long des chroniques qui viennent. Et je voudrais reprendre un petit peu la chronique au début, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises depuis qui sont intéressantes, et je serais vraiment désolé de vous faire passer à côté. Je souhaite, pour ma part, que vous puissiez approfondir la connaissance de cette sainte, et surtout, voir comment dans votre vie quotidienne vous pouvez reprendre à votre compte les leçons que vous apprenez de la vie des saints. Voilà. Alors pour ce faire, je vous dirai ce que moi-même j'apprends, hein, ce en quoi moi-même ça me profite. Voilà. Alors, je voudrais reprendre un petit peu au début, toute petite, elle avait été pressentie par un ermite, ami de la famille, comme devant être quelqu'un de particulier. Hein, il dira à ses parents, oh, je vous en prie, prenez un soin particulier de cet enfant, soignez-la, oui. Elle aimait beaucoup jouer dans le jardin et admirer aussi bien les insectes que les fleurs dans lesquelles elle voyait la création de Dieu. Et alors elle avait un passe-temps qui était tout de même original. Elle aimait bien creuser des trous, s'allonger dedans et faire comme si elle était morte. Alors elle se salissait la robe et elle se faisait un petit peu gronder. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas la coquetterie, physique, vestimentaire. Hein, bon, alors elle n'ira pas à l'école, elle n'apprendra pas toutes les choses qu'on apprend à l'école. Hein, et voilà. Mais bon, voilà. Bon, il y a un matin, elle était dans sa chambre, elle était couchée, allongée sur son petit divan, et puis tout en pensant comme ça à Dieu, elle mangeait, elle grignotait, elle était bien, elle était sereine, elle était tranquille, le soleil passait doucement entre les rideaux de la chambre et éclairait avec douceur la fraîcheur chaude, si j'ose dire, de cette petite chambre. Et Mariam était là, allongée sur le canapé, en grignotant, et voilà qu'attirée par la fraîcheur, par l'odeur du lait caillé, voilà un serpent qui se glisse jusqu'à Mariam. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas peur. Même en fait, elle rigole, et elle prend le serpent, et elle lui plonge la tête dans le bol pour qu'il puisse boire tout ce qu'il veut. À ce moment-là, y a un domestique qui arrive, pile à ce moment-là, il voit le serpent, il voit l'enfant, il pousse un cri, Mariam lâche la prise, le serpent s'enfuit, les gens accourent, et tout est redevenu serein. Voilà. Dans sa vie, Mariam aura souvent des visions de serpents, et son existence de carmélite sera une lutte acharnée et, à certaines heures, tragique contre l'antique serpent, celui qu'on nomme Diable ou Satan, le séducteur du monde entier, comme il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 9. Voilà. Mais elle fera comme la femme de l'Apocalypse, elle en sortira victorieuse. Il y a une relation particulière aussi, alors on verra, hein, avec Saint Joseph, avec la Sainte Vierge, et je vous disais dans la chronique dernière que elle avait refusé ce mariage que son oncle prétendait lui imposer lorsqu'elle avait 13 ans. Hein, voilà. Et donc je vous racontais qu'elle était venue portant ses tresses dans un plateau. Hein, voilà. Le jour du repas où on devait discuter discuter de l'organisation, faire l'annonce officielle de ce mariage. Mais ce que j'ignorais alors, et que donc je ne vous ai pas dit, et qui pourtant est important, c'est que Mariam, bon, comme vous l'avez compris, elle ne désirait pas ce mariage, elle le refusait, parce qu'elle voulait s'unir au Christ, et uniquement au Christ, elle voulait être à Dieu, et uniquement à Dieu, et puis c'est tout, elle se ressentait profondément, comme une fille de l'Église catholique romaine et apostolique, voyez-vous. Donc c'était vraiment, c'était sa vie, c'était comme ça. Elle n'avait que 13 ans, mais c'était clair, c'était comme ça, et c'était pas autrement. Mais ce que je ne savais pas, et que donc je ne vous ai pas dit, et qu'il y est intéressant de savoir, c'est que la veille de ce repas, la nuit qui a précédé ce repas, hein, elle refusait, elle, ce mariage, hein, comme je vous l'ai dit. La nuit qui précédait ce repas, elle a prié toute la nuit, la Sainte Vierge. Et à ce moment-là, elle a eu cette réponse, sa voix intérieure qui lui a dit, hein, d'avoir confiance, hein, et qu'elle lui donnerait l'inspiration au moment venu pour ne pas avoir à subir ce mariage contre sa volonté. Et voilà que le matin, soulagée, libérée de l'angoisse, n'éprouvant plus de peur, assurée de l'avenir, forte dans sa foi, on peut dire, eh bien, elle se coupe les tresses, hein, suivant l'inspiration de sa voix intérieure, hein, qu'elle a reçue après avoir prié la Vierge Marie. Elle se coupe les tresses et elle mêle les tresses avec les bijoux qu'elle devait avoir pour son mariage. Et c'est tout cela qu'elle met dans le plateau et qu'elle apporte. Et il me semble que c'est important de le savoir. C'est pour ça que je le répète, alors que je ne l'avais pas dit la semaine dernière, excusez-moi, je ne pouvais pas vous dire ce que moi-même j'ignorais. La fermeté de sa décision, la clarté de son objectif, de son but, n'a pas fait qu'elle s'est appuyée sur elle-même, sur sa propre sagesse, sur sa propre force de caractère. Parce qu'on sait ce qu'il en est, parfois c'est suffisant et parfois ça manque. Elle s'est appuyée sur son amour et sur sa foi, sur sa prière à la Vierge Marie, et sur la confiance que la voix intérieure qui lui répondait était une voix divine, était une inspiration divine. Et que donc, elle n'avait qu'à suivre cette inspiration, écouter cette voix. J'allais dire obéir, mais tenir compte de ce conseil. Et elle a fait ce qu'elle a fait, elle a coupé ses tresses, elle les a mêlées aux bijoux, elle les a mises à bille dans un plateau, et elle les a portées au repas. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le mariage. Ce faisant, il a fallu quand même que pendant trois mois, elle supporte les traitements très durs qui lui ont été imposés par cet oncle. Je crois que c'est intéressant. Donc ça, c'était pour, comment dire, compléter un petit peu ce que je vous disais la semaine dernière. Je vous ai dit aussi que cet oncle, donc après, pas cet oncle, ce... Après cet événement avec cet oncle, là, les trois mois de mauvais traitement, les trois mois où elle a été envoyée dans les cuisines de cet oncle, où l'oncle a demandé qu'on lui donne les tâches les plus rudes à faire, l'interdisait de sortir, elle se faisait engueuler toute la journée, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même un peu le cas. Hein. Bon, je vous ai dit qu'elle avait, elle avait écrit à son frère, qu'elle voulait lui faire parvenir cette lettre, qu'elle avait réussi à sortir une nuit pour aller voir... un domestique qui avait été renvoyé de chez son oncle, un domestique musulman, hein, qui avait été renvoyé de chez son oncle pour lui porter la lettre et lui demander de porter cette lettre à son frère, puisque ce domestique devait aller à Nazareth où était son frère. Et je vous ai dit que le domestique, enfin l'ancien domestique en question, voulait lui conseiller de se convertir à l'islam, qu'elle avait refusé, que le domestique s'était mis en colère et lui avait coupé la gorge. Et ensuite, avait emmailloté Mariam et l'avait laissée pour morte dans une ruelle. Que Mariam, donc, avait été recueillie. Et c'est là aussi que je dois vous préciser que Mariam s'est réveillée. Elle était au petit. Elle était, comment dire, elle a vu une religieuse habillée d'azur qui lui a dit « Je vous ai recousu le cou » et qui l'a nourri très, très, très sobrement, qui lui a donné une soupe excellente. Mariam a demandé à en avoir encore. La religieuse en question lui a dit « Non, vous n'en aurez pas d'autre et ne soyez pas comme ces gens qui n'ont jamais assez. » Mariam a gardé toute sa vie le goût de cette soupe et avant de mourir, elle en parla encore. De cette fameuse soupe. Puis, cette religieuse qui s'est occupée de Mariam dans une grotte, elle l'a recueillie et s'est occupée d'elle dans une grotte. Je vous ai expliqué aussi que Mariam avait eu ce qu'on appelle une EMI. Ça y ressemble en tout cas, ça y ressemble. Et ensuite, au bout d'à peu près un mois, Mariam qui estime le temps, ça faisait à peu près un mois, la religieuse, qui donc l'avait secourue, avait soigné sa blessure, l'amène à Alexandrie pour se confesser dans une église, et quand Mariam sort du confessionnal, la religieuse a disparu. Cette religieuse, Mariam reconnaîtra par la suite, c'était la Vierge Marie.